Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir patienté longtemps. J'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. Donc, nous allons avoir une lecture dans le noir. Je vais éteindre les lumières. Vous allez mettre vos masques avant, parce que c'est absolument interdit d'écouter une lecture sans masque, là, ce soir. Non, c'est pas la peine. Vous sortez, je donne votre place à quelqu'un d'autre. Non, je suis très dure. Voilà, donc dans le cadre de ce week-end d'enfer, au salon de lecture Jacques Kerchach, nous avons deux comédiens avec nous qui vont vous lire des textes, des histoires de fantômes, des récits, des témoignages, de la littérature. Donc c'est Roch Amédée Benzouzi et Thierry Blanc qui sont comédiens. Donc vous allez être plongé dans l'obscurité, déconnecté de tout visuel. Vous allez essayer d'éveiller vos sens en vous laissant bercer par le rythme des voix, des lecteurs. Vous allez vous imprégner des différents univers évoqués dans les textes. Alors vous allez écouter des textes, des témoignages, des récits collectés par un ethnologue, Paul Sorrentino, qui est spécialiste du Vietnam, par exemple. Des textes de Vinciane Després, qui est philosophe des sciences. Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de lire ses livres parce qu'ils sont extraordinaires. Elle écrit sur les animaux, sur la mort. Elle est absolument passionnante. Non, c'est vrai. J'entends des ricanements, mais c'est vrai. Elle écrit des choses passionnantes sur la mort. Je vais vous lire un tout petit extrait. Depuis un certain temps, les morts s'étaient fait discrets, perdant toute visibilité. Aujourd'hui, il se pourrait que les choses changent et que les morts deviennent plus actifs. Ils réclament, proposent leur aide, soutiennent ou consolent. Ils le font avec tendresse, souvent avec humour. Voilà, et puis vous allez aussi écouter un extrait de Hamlet, de Shakespeare, un poème de Baudelaire, un texte tiré de Sommeil d'Haruki Murakami, un texte de Jorge Amado, tiré de Donna Flore et ses deux maris, un texte d'Alejandro Jodorowsky, de son livre L'arbre du dieu pendu, et enfin, des légendes tirées de Lafcadio Hearn, dont le titre est Kwaidan, histoire et étude de sujets étranges qui se passent au Japon. Voilà. Mettez bien vos masques. J'ai pas l'habitude. Mettez vos masques, s'il vous plaît. Je vais éteindre les lumières et on va commencer.
Extrait des récits de la revue ethnologique Terrain. Corps perdu, corps trouvé. Fragment d'une conversation avec un mort par Paul Sorrentino.
Plusieurs associations vietnamiennes qui se sont développées depuis la construction de l'État communiste de l'après-guerre, à partir de la fin des années 1970, proposent d'aider les familles dont un des membres a disparu, de le contacter et d'entrer en conversation avec lui. Ces associations qui se disent non religieuses et scientifiques, sur le modèle de sciences psychiques européennes du tournant du XXe siècle, ne proposent pas les services des médiums professionnels. À travers des séances encadrées par leurs experts, les familles sont simplement guidées dans leur rencontre du mort qui viendra, si tout se passe bien, à un moment de la séance, posséder l'un des membres présents de la famille pour converser avec les autres. L'auteur rapporte ici une séance à laquelle il a pu participer, où le fantôme d'un jeune garçon disparu plusieurs années auparavant vient se manifester à travers le corps de sa sœur, afin de s'entretenir avec le reste de la famille.
Vietnam, après-guerre, État communiste, l'expert.
Je vous rappelle que je ne suis pas un médium. Je suis un scientifique. Mon rôle et de vous accompagner pendant cette séance. Êtes-vous prêts ?
Ils hochent tous la tête à tour de rôle.
Très bien. Essayons de contacter votre fils disparu. Si tout se passe bien, il se manifestera au travers de l'un d'entre vous. fils de ce foyer. Ta famille te cherche. Elle aimerait entrer en contact avec toi.
Le silence se fait. Et la sœur numéro un parle. Ah,
je suis là.
Tout le monde se tourne vers la sœur numéro un.
Vous êtes bien le fils de cette famille disparue récemment ?
C'est moi. C'est ma famille.
De nombreux cadeaux lui sont alors proposés. Scooter, argent, nourriture, pour le convaincre de réintégrer la famille et de cesser ses errances, en commençant notamment par révéler l'endroit où ses restes sont enterrés, de façon à permettre à la famille de procéder à leur réinhumation. Et c'est alors que la sœur numéro 2...
« mon frère, aide-moi, je t'en supplie, mon mari me bat et j'ai si peur !»
Silence. Tout le monde regarde la sœur numéro 2. L'attention est à son comble. La sœur numéro 1 se tourne alors vers l'expert et l'ethnographe. « Je vais devoir vous demander de sortir. » L'expert et l'ethnographe sortent, laissant la famille dans leur intimité. Extrait de Travaux ethnographiques. Vinciane Després, au bonheur des morts, récit de ceux qui restent. Selon Christophe Ponce, en Islande, les espaces oniriques font l'objet de visites fréquentes de défunts pour quantité de motifs. Une de ses informatrices lui a raconté qu'une femme était un jour venue dans son rêve pour lui dire qu'elle n'était pas contente, selon ses mots, de ce que sa fille était en train de faire en ce moment, et qu'elle lui demandait de le lui faire savoir. La rêveuse a donc cherché à qui elle avait eu affaire. Et elle a fini par comprendre qu'il s'agissait d'une amie habitant loin et qui venait de perdre sa mère. Elle lui a téléphoné. « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ? J'ai vu ta maman qui m'a dit de te dire qu'elle n'était pas contente de ce que tu fais. » L'amie lui avoua alors qu'elle était en train de vendre une commode dont sa mère ne voulait pas qu'elle se défasse. La fille retourna donc chez l'acquéreur et réussit à le convaincre de lui retourner le meuble, ce qu'il accepta. La mère revint en rêve pour la remercier.
À la séance du jeudi 13 janvier 2011, ce message est donné à Jules, jeune homme d'une vingtaine d'années, venu avec la photo de son ami, Coach décédé depuis 2 ans. Ce n'est pas facile pour moi. Une grosse impression de suffocation. Cette personne n'est pas encore trop loin, bien trop loin non plus. Le clairvoyant fait allusion au fait que la personne appelée juste avant s'était suicidée. On sent une oppression. Il ne donne pas de détails. On me donne quelqu'un qui est très optimiste. Une vision un peu naïve. Mais progressivement, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé de désillusion en désillusion. Et il n'avait pas plus rien d'intéressant ou de beau. Déjà de son vivant, il a dû s'isoler. Vous vous souvenez de lui quand il était encore bien ? Jules répond que oui. Si vous pensez à lui quand il était encore bien, cela pourrait l'aider à se dégager. Il est comme dans un cocon enfermé. Ce sont d'autres entités qui me renseignent. C'était quelqu'un de très gentil, d'hypersensible. Il s'attendait à ce que le monde soit comme lui. Ce sont vraiment des désillusions qui sont venues progressivement. Ce n'est même pas de la culpabilité, il n'en est pas encore là. Quand on pense à lui, on pense à la fin et cela le fige encore plus. Cela vous demande une démarche active de le voir heureux et souriant. Il est nécessaire et utile de lui envoyer des pensées positives et de le visualiser heureux et joyeux. Si on vous a poussé à emmener sa photo, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour lui. Il faudra revenir dans quelque temps avec sa photo.
Le vendredi 3 décembre 2010, au moment où la séance allait s'achever, il y eut apparition d'un mort non convoqué. Michel, l'annonce en s'adressant à une très jeune femme assise seule au premier rang, qui visiblement est venue sans photo. « Madame, il y a quelqu'un pour vous. C'est vous qu'il vient voir. Vous ne le connaissez pas, c'est un jeune homme. Il a 17 ans. Il vient de mourir. Il s'appelle Paul. C'est un accident de moto. Il ne sait pas encore très bien qu'il est mort et ses parents ne peuvent pas l'aider, ils sont trop révoltés. Ils ne peuvent pas prier pour lui. Alors je ne sais pas pourquoi c'est à vous qu'on l'a envoyé. Vous allez devoir prier pour lui, il a besoin de votre aide. » Et à ce moment-là, la jeune femme, très émue, « C'est arrivé dans ma famille. Un accident de moto. Un jeune aussi. » Et la clairvoyante répond, « Sans doute, ce serait alors pour cela qu'on s'est adressé à vous. » Venue sans demande, elle repart avec une mission. Hamlet de William Shakespeare, scène 5. Entre Hamlet et le spectre.
Où veux-tu me conduire ? Parle ! Je n'irai pas plus loin.
Écoute-moi bien.
J'écoute.
L'heure est presque arrivée où je dois retourner dans les flammes sulfureuses qui servent à mon tourment.
Hélas, pauvre ombre !
Ne me plains pas, mais prête ta sérieuse attention à ce que je vais te révéler.
Parle ! Je suis venu t'écouter.
Comme tu le seras de tirer vengeance quand tu auras écouté.
Comment ?
Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer la nuit, le jour, à jeûner dans une prison de flammes, jusqu'à ce que le feu m'ait purgé des crimes noirs commis au jour de ma vie mortelle. S'il ne m'était pas interdit de dire le secret de ma prison, je ferais un récit dont le moindre mot laborerait ton âme, glacerait ton jeune sang, ferait sortir de leur sphère tes yeux comme deux étoiles. Déferrait le nez de tes boucles tressées et hérisserait chacun de tes cheveux sur ta tête comme des piquants sur un porc épic furieux. Mais ces descriptions du monde éternel ne sont pas faites pour tes oreilles de chair et de sang. Écoute, écoute, oh écoute. Si tu as jamais aimé ton tendre père, venge-le d'un meurtre horrible et monstrueux.
D'un meurtre ?
Un meurtre horrible. Le plus excusable l'est. Mais celui-ci fut le plus horrible, le plus étrange, le plus monstrueux.
Alors fais-le-moi vite connaître pour qu'avec des ailes rapides comme l'idée ou les pensées d'amour, je vole à la vengeance.
Tu es prêt. Je le vois. Tu seras plus inerte que la ronce qui s'engraisse et pourrit à l'aise sur la rive du l'été. Si tu n'étais pas excité par ceci. Maintenant, Hamlet, écoute. On a fait croire que tandis que je dormais dans mon jardin, un serpent m'avait piqué. Ainsi, toutes les oreilles de Danemark ont été grossièrement abusées par un récit forgé de ma mort. Mais sache-le, toi, noble jeune homme, le serpent qui a mordu ton père mortellement porte aujourd'hui sa couronne.
Oh, mon âme prophétique, mon oncle !
Que le lit royal de Danemark ne soit pas la couche de la luxure et de l'inceste damné.
Le poème de Baudelaire que nous allons évoquer ici est la première partie d'un fantôme, intitulé « Les ténèbres », l'une des nombreuses pièces composées en l'honneur de son amante Jeanne Duval. Au moment de son écriture, les deux amants sont séparés, le poème marquant une rupture avec les crises amoureuses hystériques de leur passé.
Dans les caveaux d'insondable tristesse, où le destin m'a déjà relégué, où jamais n'entre un rayon rose et gai, où seul, avec la nuit maussade hôtesse, je suis comme un peintre qu'un dieu moqueur condamne à perdre, hélas, sur des ténèbres. Où cuisiner aux appétits funèbres, je fais bouillir, je mange mon cœur. Par instant brille et s'allonge et s'étale
Un spectre fait de grâce et de splendeur. À sa rêveuse allure orientale, quand il atteint sa totale grandeur, je reconnais ma belle visiteuse. C'est elle, noire et pourtant lumineuse.
Sommeil de Haruki Murakami, traduit du japonais par Corinne Atlan. À ce moment, il me sembla distinguer une ombre noire à mes pieds, vaguement visible dans la pénombre. Je retins mon souffle, sentant tout l'intérieur de mon corps, cœur et poumons compris s'arrêter de fonctionner un instant. Et je concentrai mon regard sur cette ombre. Elle cessa alors soudain d'être vague, comme si elle n'attendait que mon regard pour se matérialiser, et elle prit des contours extraordinairement précis. Une forme réelle se coula à l'intérieur avec tous ses détails. Un vieillard, maigre, vêtu de vêtements noirs ajustés, se tenait debout en silence au pied de mon lit. Il avait des cheveux gris coupés courts, des joues creuses, et il me fixait de son regard perçant. Il avait des yeux immenses, dans lesquels je distinguais nettement un réseau de vaisseaux rouges. Et quant à son visage, il était complètement inexpressif. Il ne m'adressa pas un seul mot. Il semblait aussi vide qu'un trou sans fond. Ce n'est pas un rêve, me dis-je. J'étais réveillé maintenant. Et pas vaguement, non, non, non. Aussi réveillé que si l'on m'avait pincé. Et ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. J'essayais de bouger. Je devais réveiller mon mari, allumer la lumière, mais j'eus beau tenter de rassembler mes forces. Il me fut impossible de bouger, même un seul doigt. Et je commençais à avoir peur. Un frisson d'horreur s'éleva sans bruit de l'insondable tréfonds de la mémoire originelle et me glaça jusqu'à la racine même de mon être. Je voulus crier, mais pas un son ne sortit de ma bouche. Même ma langue ne m'obéissait plus. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder fixement ce vieillard en face de moi. Il tenait quelque chose à la main, un objet oblong qui répandait une lueur blanche. J'étudiais l'objet et la forme commença à se préciser. C'était une carafe ancienne de porcelaine blanche. Au bout d'un moment, il la souleva en l'air et se mit à verser de l'eau sur mes pieds. Mais je ne pouvais pas sentir le contact de l'eau. Je voyais qu'il y avait de l'eau sur mes pieds. Je l'entendais couler. Et je ne sentais rien.
Interview de Murakami pour le magazine littéraire en 2003. Je pense que nous vivons dans un monde. Et ce monde est celui-là. Mais qu'il existe, il en existe d'autres tout près. Et si vous le désirez vraiment, vous pouvez passer par-dessus le mur et entrer dans un autre univers. J'ai toujours considéré l'écriture comme un rêve éveillé. Pour moi, rien n'est plus naturel que le surnaturel. De Jorge Amado Dona Flor et ses deux maris, traduit du brésilien par Georgette Tavares Bastos. Elle se dirigea vers la chambre à coucher, ouvrit la porte et alluma la lumière. « Oh, toi !» dit-elle d'une voix chaude, comme si elle l'attendait. Et sur le lit de fer, nu, comme Dona Flor l'avait vu en ce dimanche de carnaval, lorsque les hommes de la morgue avaient apporté le corps, Vadinho, son mari, était couché, et souriant, lui fit un signe de la main. Donna Flore lui sourit à son tour. Qui pourrait résister au charme du bohème, à ce visage d'innocence et de cynisme, à ses yeux de convoitise? Pas même une sainte d'église, et moins encore elle, Donna Flore, simple créature.
Ma jolie.
Cette voix chérie, paresseuse et lente. Mais pourquoi est-ce que tu es venue aujourd'hui? Demanda Donna Flore.
Parce que tu m'as appelée.
Et aujourd'hui.
Tu m'as tellement appelée que je suis venue. Me voici, ma chérie. Je suis venue tout de suite.
Et se levant à demi, il lui prit la main. L'attirant vers lui, il l'embrassa sur la joue, car elle avait détourné la bouche. Pas sur la bouche, tu ne peux pas, mais tu es fou.
Et pourquoi pas?
Donna Flore s'était assise sur le bord du lit. Vadinho, allongé à son aise, ouvrant un peu les jambes et exhibant ses indécences défendues mais si belles. Donna Flore s'attendrissait sur chaque détail de ce corps. Durant presque 3 ans, elle ne l'avait pas vu et il n'avait pas changé du tout, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Oh, tu es le même, tu n'as pas changé, pas même un soupçon. Bon, moi j'ai grossi.
Oh, tu es si jolie, tu ne peux pas savoir. Tu as l'air d'un oignon charnu et succulent qu'on a envie de mordre. Oh, c'est ce coquin de Vivaldo qui a raison. Il a une façon de te regarder, l'insolent.
Non, mais retire ta main, Vadinho, et cesse de mentir. Monsieur Vivaldo ne m'a jamais regardé comme tu dis. Il a toujours été respectueux. Ah, voyons, retire ta main. Oublies-tu, Vadinho, que je suis une femme mariée et sérieuse? Seul mon mari a le droit de poser la main sur moi. C'était là un problème nouveau. Donna Flore n'y avait pas pensé et ne put contester. « Ah, oh, mais tu inventes de ces choses, on ne peut même pas discuter !» Et dans la rue résonnait déjà le pas ferme du docteur Teodoro. « Il arrive, Vadinho, va-t'en. Écoute, j'ai été contente, vraiment très contente de te voir. Tu ne peux pas imaginer, c'est tellement bon !» Et Vadinho restait là, l'air amusé. « Non mais va-t'en, grand fou! Il est déjà en train d'entrer dans la maison, il va fermer la porte !»« Il arrive et il va te voir ici, mais qu'est-ce que je vais lui dire ?» « Mais il va se coucher dans le lit !» Vadinho fit un geste de regret impuissant.
« Je ne peux pas l'empêcher, mais on se sera un peu, il y aura de la place pour nous trois. »
Et cette fois, elle se fâcha vraiment. « Mais qu'est-ce que tu penses de moi? Tu ne me connais donc plus? Pourquoi est-ce que tu me traites comme si j'étais une femme perdue, une prostituée? Comment tu oses me manquer ainsi de respect? Tu sais bien que je suis une honnête femme. »
« Ne te fâche pas, mon amour. D'ailleurs, c'est toi qui m'as appelé. »
« Oui, mais je voulais seulement te voir et parler avec toi. »
« Mais on n'a même pas eu le temps de parler. »
« Bon, reviens demain et nous pourrons converser. »
« C'est ce que je ne peux pas aller revenir ainsi. » Penses-tu que c'est un petit voyage facile? Allez, comme à Saramago et ou à Ferran de Santa. Pourquoi tu dis la suite juste de dire va là-bas et je reviens? Mon amour, puisque je suis ici, autant que je m'installe.
Mais pas ici, dans la chambre, pas dans le lit, pour l'amour de Dieu. Voyons, Vadinho. Même s'il ne te voit pas, je serais morte de honte. Je ne pourrais pas. Et sa voix prit l'accent d'un sanglot. Jamais il n'avait pu supporter de la voir pleurer.
C'est bon, c'est bon. Je vais dormir dans le salon. Demain, nous déciderons de cela. Mais avant, je vais t'embrasser.
Alejandro Jodorowsky, L'arbre du dieu pendu. Traduit de l'espagnol par Mara Hernandez et René Solis.
Les racines de mon père. C'était pour lui une torture de réciter les versets en hébreu, jusqu'au jour où lui et le rébé se rencontrèrent dans l'entremonde. Les choses se passèrent de la façon suivante. Alejandro, à force de se balancer en chantonnant des phrases qu'il ne comprenait pas, sentit ses pieds gelés, son front bouillir et son estomac s'emplir d'un gaz acide. Il eut honte de respirer profondément, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, et de s'évanouir devant ses camarades. Ils comprenaient les textes, eux.
à moins que leur expression de foi intense ne fût qu'une comédie pour obtenir un bon dîner en récompense. Il fit un effort suprême en laissant son corps à son balancement, sortit de lui et se trouva dans un espace réduit et dans un temps qui ne passait pas. Quelle découverte ce refuge! Il pouvait y végéter en paix, sans rien faire, en se contentant de vivre. Il sentit intensement ce que voulait dire penser sans la menace constante de la chair, sans besoin, sans peur et fatigue en tout genre, sans le mépris ou la pitié des autres. Il désira ne plus jamais revenir et demeurer là, dans une extase éternelle. Traversant le mur de lumière, un homme vêtu de noir, comme les habits de rabbin, mais avec les yeux bridés, la peau jaune et une longue barbe aux pointes raides, vint flotter près de lui.
Tu as de la chance, mon garçon. Il ne t'arrivera pas la même chose qu'à moi. Lorsque j'ai découvert l'entre-monde, il n'y avait personne pour me guider. Je me suis senti bien, tout comme toi. Et j'ai décidé de ne pas revenir. Grave erreur. Mon corps, abandonné dans un bois, a été dévoré par les ours. Et lorsque j'ai ressenti le besoin des êtres humains, le retour m'était impossible. J'étais donc condamné à l'errance à travers les 10 plans de la création, sans avoir le droit de m'arrêter, un triste oiseau errant. Si tu me laisses m'enraciner dans ton esprit, je reviendrai avec toi. Et pour te remercier, je pourrai te donner des conseils. Je connais la Torah et le Talmud par cœur, et tu ne seras plus jamais seul. Tu veux bien ?
Une offre pareille, le petit orphelin ne pouvait pas la refuser. Assoiffé d'amour, il adopta le rébé. C'était un caucasien qui avait trop poussé ses études kabbalistiques et qui, pour être parti à la recherche des saints savants vivants, selon le Zohar, dans l'autre monde, s'était perdu dans les labyrinthes du temps, égaré dans ses solitudes infinies. Lui, l'ermite, impénitent, avait appris à valoriser la compagnie des êtres humains, compris les chiens toujours avides de la présence du maître, découvert que l'autre est une forme de nourriture, que l'homme sans l'homme est un affamé spirituel. Lorsqu'il revient à lui, il était allongé sur un banc de l'école. Il était entouré du professeur et de ses camarades de classe, très pâle, car il le croyait mort. Son cœur avait, semble-t-il, cessé de battre. Ils lui donnèrent du thé sucré au citron et chantèrent pour célébrer le miracle de sa résurrection. Le rébé, pendant ce temps, danser dans la salle. Hé mushito wangana wanzambie na yokeleho na yokeleho amukolongunge
amukolongunge amukolongunge amukolongunge Muzina.
Hé mushito wangana wanzambie na yokeleho.
Le fantôme sans tête.
Amukolongunge amukolongunge.
Sur la route d'Akasada près de Tokyo, on trouve une côte appelée Kiino Kunizaka qui signifie la côte de la province de Kii. J'ignore pourquoi on l'appelle ainsi. D'un côté, vous pouvez voir un ancien fossé, profond, très large, dont les pentes vert émeraude montent, raides, vers quelques jardins. Sur l'autre, les murs d'un palais impérial, haut et altier. Avant l'ère des lanternes et des jirinkisha,
pousse-pousse,
l'endroit était d'une totale solitude une fois la nuit tombée. Les piétons attardés préféraient s'imposer plusieurs milles de détours plutôt que de gravir la Kiino Kunizaka après le coucher du soleil. Et tous ces désagréments à cause d'un mujina,
sorte de blaireau,
qui hantait les lieux. Le dernier homme à avoir vu un mujina fut un vieux marchand du quartier de Kiyobashi. Il mourut il y a quelque 30 ans. L'histoire qui suit, c'est lui qui l'a racontée. Par une nuit avancée, il marchait d'un bon pas vers le Kiino Kunizaka, quand il aperçut une femme toute seule, accroupie près du fossé, et elle pleurait à fendre l'âme. Dans la crainte qu'elle ne voulût se noyer dans la petite mare qu'elle semblait regarder, il s'arrêta pour lui offrir aide et consolation tant que faire se pouvait. et il découvrit une personne mince, gracieuse, habillée avec goût. Elle avait coiffé ses cheveux comme le font les jeunes demoiselles de bonne famille.
« Oh, honorable demoiselle, ne pleurez pas comme cela. Racontez-moi vos problèmes, et si je puis y remédier, de quelque façon que ce soit, je serai très heureux. »
Il parlait sérieusement, car il s'agissait d'un bien brave homme. Elle n'en continua pas moins à pleurer en fouissant son visage dans une de ses très longues manches.
« Oh, Jouchou, je vous en prie, je vous en supplie, écoutez-moi. C'est pas un bon endroit ici. Pour une demoiselle, surtout la nuit, ne pleurez pas, je vous en conjure. Expliquez-moi comment je pourrais vous consoler. »
Lente, elle se leva, mais dos tournée à l'homme charitable, elle continua à gémir et à pleurer, le visage enfoui dans sa manche. Il s'approcha d'elle, lui posa une main délicate sur l'épaule et sans se décourager...
« Oh, honorable demoiselle, écoutez-moi un moment, un petit moment. Chouchou, chouchou !»
Puis, la demoiselle se retourna, baissa sa manche et se caressa le visage avec la main. Et l'homme vit alors qu'elle n'avait ni yeux, ni bouche, ni nez. Il poussa un grand cri et s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes. Il courut vers le sommet de la Kiino Kunizaka, et tout était noir, vide devant lui. Il courut encore, trop apeuré pour tourner la tête derrière lui. Et enfin, il distingua une lanterne, si lointaine que l'on eût juré la lueur d'une luciole. Il se dirigea vers elle. Et c'était bien une lanterne, le lumignon d'un vendeur de soba itinérant.
Préparation de sarrasin.
Qui avait dressé son éventaire au bord de la route. Toute lueur, toute compagnie humaine était délicieuse après la sinistre vision. Il se jeta alors aux pieds du vendeur de soba en hurlant de toute la force de ses poumons. « Coré, coré, du calme, du calme. Allons, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous a blessé ?»«
Non, personne ne m'a blessé. » Mais...
Ah, mais on vous a effrayé alors. Des brigands peut-être?
Non, pas de brigands. J'ai vu une femme près du fossé. Et elle m'a montré... Je n'ose même pas vous dire ce qu'elle m'a montré.
Et c'était quelque chose comme ceci qu'elle vous a montré? S'écria le vendeur en se tournant vers l'autre. Et il dévoila soudain son propre visage. Aussi lisse qu'un œuf. Et en même temps, la lumière s'éteignit. Yukiona, la femme des neiges. Dans un village de la province de Musashi vivaient deux bûcherons, Mozaku et Minokichi. À l'époque de cette histoire, Mozaku était un vieil homme et Minokichi, son aide, allait sur ses 18 ans. Et chaque jour, ils se rendaient ensemble dans une forêt à quelques 5 miles de leur village. Pour entrer dans la zone boisée, ils devaient franchir une large rivière et monter sur une barque qui faisait la navette entre les deux rives. Et à plus d'une reprise, on avait tenté de construire un pont, mais à chaque fois, une crue l'avait réduite en miettes. Aucun pont ordinaire ne pouvait résister aux caprices des eaux déchaînées. Mozaku et Minokichi allaient pour rentrer chez eux un soir glacial quand une terrible tempête de neige les surprit. Ils parvinrent jusqu'à l'embarcation pour découvrir que le passeur était parti. Ils ne purent qu'entrevoir sa barque de l'autre côté de la rivière. Et comme le temps ne se prêtait pas à la baignade, les bûcherons décidèrent de chercher refuge dans la baraque du passeur, bien fortuné de trouver un abri. Dans la cabane, aucun foyer. Aucun endroit où faire brûler un feu. C'était un simple refuge de deux geôles, avec une seule porte et sans fenêtre. Mozaku et Minokichi fermèrent l'entrée avec soin et, espérant trouver le sommeil, s'étendirent avec leurs légers survêtements en guise de couverture. Au début, ils ne souffrirent pas trop du froid et ils se prirent à espérer que la tempête s'apaiserait bien vite. Le vieillard tomba presque immédiatement dans un profond sommeil. Par contre, le jeune homme, Minokichi, demeura étendu, attentif au vent monstrueux et aux terribles gifles de la neige contre la porte. La rivière dehors rugissait et leur abri précaire tremblait, craquait comme une jonque sur une mer déchaînée. C'était vraiment une terrible tempête et l'air se glaçait de seconde en seconde. Minokichi tremblait sous son léger vêtement de pluie. Et enfin, en dépit des morsures du froid, il finit par s'endormir. Des flocons de neige qui tombaient sur ses joues l'éveillèrent. Quelqu'un avait forcé la porte, et à la lumière de la neige, il entrevit une femme dans la pièce. Une femme, toute de blanc vêtue. Penchée sur Mosaku, elle soufflait son haleine vers son visage. On aurait juré une fumée blanche et scintillante. Et puis, elle se tourna du côté de Minokichi et se baissa vers lui. Il tenta de crier, mais ne pouvait émettre le moindre son. Le visage de la femme s'approcha plus bas encore, jusqu'à effleurer presque celui du jeune homme. Et il vit alors combien elle était superbe, même si ses yeux l'effrayaient. Pendant un moment, elle continua à l'observer, puis elle sourit et murmura.
Je voulais te traiter comme l'autre homme, mais je ne peux m'empêcher de m'apitoyer en te voyant si jeune, si beau. Tu es très beau, Minokichi, et je ne veux pas te faire de mal aujourd'hui. Mais si tu racontes à qui que ce soit, même à ta mère, ce que tu as vu cette nuit, je le saurai. Et alors, je te tuerai. N'oublie jamais ces paroles.
Sur ce, elle se redressa, se détourna de Minokichi et sortit par la porte grande ouverte. À ce moment, enfin, il fut capable de se mouvoir, sauta sur ses pieds et regarda autour de lui. Et il ne vit de femme nulle part. Et la neige se précipitait à grandes rafales par la porte ouverte. Minokichi la referma et la bloqua en accumulant quelques morceaux de bois devant elle. Il se demanda alors si la tempête seule n'avait pas ouvert l'entrée. Après tout, il pouvait fort bien avoir rêvé. Et la femme en blanc se réduisait alors à un simple jeu de lumière dû à la neige. Non, il n'était plus certain de rien. Il appela Mosaku, mais le vieil homme ne répondit pas. Effrayé, Minokichi étendit la main dans le noir, effleura le visage de Mosaku et sentit un froid glacial. Mosaku était mort. À l'aube, la tempête s'était apaisée et quand le passeur regagna sa cahute, un peu après le lever du soleil, il découvrit Minokichi étendu de tout son long sur le cadavre gelé de Mosaku. Le passeur s'occupa tout de suite du jeune homme qui finit par revenir à lui. Toutefois, il subit longtemps les effets du froid qui l'avait assailli en cette terrible nuit. La mort du vieil homme l'avait épouvanté, mais il n'évoqua jamais sa vision de la femme en blanc. Dès qu'il se sentit d'attaque, il reprit ses occupations. Chaque matin, il se rendait seul dans la forêt et rentrait au crépuscule avec sur le dos un paquet de fagots qu'il allait vendre avec l'aide de sa mère. Un soir d'hiver, l'année suivante, alors qu'il rentrait, Minokichi aperçut une jeune fille qui empruntait la même route que lui. Grande, mince, très jolie, elle répondit au salut de Minokichi d'une voix aussi plaisante à l'oreille que le pépiment d'un oiseau. Il marcha à ses côtés et la conversation s'engagea. La jeune fille s'appelait Oyuki.
Neige.
Elle venait de perdre ses parents et se rendait à Yedo pour rejoindre quelques relations lointaines qui pourraient l'aider à trouver une place de servante. Cette étrange demoiselle charma d'emblée Minokichi. Et plus il la regardait, plus il la trouvait superbe. Il lui demanda si elle était fiancée et avec un petit rire adorable, elle lui répondit qu'elle était libre. Elle se permit alors de lui poser la même question. Il lui expliqua qu'il vivait avec sa mère, veuve, et que personne n'avait encore envisagé le thème d'une honorable belle-fille. Il était encore trop jeune. Ces confidences échangées, ils marchèrent longtemps sans plus prononcer un mot. Mais, comme l'affirme le proverbe, quand le désir est là, les yeux peuvent se montrer plus éloquents que la bouche. À leur arrivée au village, ils avaient découvert que chacun se plaisait en la compagnie de l'autre. Et Minokichi demanda sans embâge à Oyuki de se reposer un peu dans sa maison. Après une légère hésitation, elle accepta. La mère lui souhaita la bienvenue et lui prépara un repas chaud. Oyuki se conduisit avec une telle dignité que la mère de Minokichi se prit bien vite d'une grande affection pour elle et la persuada de différer quelque peu son voyage vers Yedo. Elle l'accepta et, conséquence tout à fait logique, ne se rendit jamais où elle voulait aller. Elle resta dans la maison en qualité d'honorable belle-fille. Et Oyuki se révéla un vrai modèle. Quand la mère de Minokichi vint à mourir, quelques 5 ans plus tard, ses dernières paroles furent des paroles d'affection et de louange pour la mère de son fils. Oyuki donna 10 enfants à Minokichi, garçons et filles, de très beaux enfants, tous dotés d'un grain de peau exceptionnel. Les habitants du village voyaient en Oyuki une personne merveilleuse, bien différente d'eux. Et oui, la plupart des paysannes accusent très tôt leur âge, mais Oyuki, bien que 10 fois mère, apparaissait toujours aussi jeune, aussi fraîche que le jour où elle était apparue pour la première fois. Une nuit, les enfants au lit, Oyuki cousait à la lueur de la lampe en papier et Minokichi, en l'observant, remarqua « Tu sais, à te voir de la sorte avec cette lumière blanche qui éclaire ton visage, je repense à une étrange aventure qui m'est arrivée alors que je n'avais que 18 ans. J'ai vu une femme aussi merveilleuse et aussi blanche que toi. Ouais, vraiment, elle te ressemblait. » Et sans lever les yeux de son ouvrage, Oyuki répondit
« Parlez-moi d'elle. Où l'avez-vous vue ?»
Minokichi, alors, lui raconta sa terrible nuit dans la baraque du passeur et parla de la femme blanche qui s'était penchée sur lui, souriante, murmurant ses paroles. Et il parla aussi de la mort silencieuse du vieux Mosaku et conclut « Rêve ou réalité, ce fut l'unique fois que j'ai vu une créature aussi merveilleuse que toi. Alors bien sûr, elle n'était pas humaine et j'avais peur d'elle, très peur, mais elle était si blanche que... Oui, je n'ai jamais su au juste si c'était un rêve ou si j'ai réellement vu la femme des neiges. » Et Oyuki rejeta alors son ouvrage au loin, se leva et se pencha sur son mari assis. Et elle lui cria en pleine figure
« C'était moi ! Moi ! Moi, c'était moi, femme des neiges ! Et je t'ai prévenu que je te tuerais si tu rapportais un jour cette histoire à qui que ce soit. » Je te tuerais sur l'heure, n'étaient ces enfants qui dormaient dans l'autre pièce. Tu ferais mieux, à l'avenir, de prendre soin d'eux, très grand soin d'eux. Car s'ils ont un jour à se plaindre de toi, je te traiterai comme tu le mérites.
Alors qu'elle hurlait, la voix se fit lointaine, pareil à un vent qui s'éloigne.
Je te tuerai.
Puis... Oyuki se mua en un léger brouillard blanc scintillant qui s'éleva en spirale jusqu'aux poutres du plafond avant de disparaître par la cheminée. Et nul ne la revit jamais.
Echa.